Bonjour à tous. Donc pendant une heure, on va parler un peu d'une utopie qui est extrêmement peu connue, qui est une utopie qui a, on va le voir peut-être, existé du côté de Madagascar au XVIIe siècle, au XVIIIe, pardon. Pour parler de ça, nous avons Hugo Bellagamba, auteur, universitaire. Nous avons aussi Stéphane Beauverger. On a la chance d'avoir aussi Audrey Canceau, Reddick, Robert VS Reddick, et en interprète, je remercierai Lionel Davoust. Libertalia nous est connue par une source historique qui est un livre qui a été édité aux alentours de 1724-1728 qui s'appelle L'histoire générale des plus fameux pirates, qui a été donc édité en Angleterre par, on pense, un auteur qui s'appelle Daniel Dufaux, qui est assez connu pour avoir fait notamment Robinson Crusoe. Hugo Bellagamba, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette utopie, tout d'abord, si vous la connaissez ?
Alors, bonjour à tous d'abord. Donc sur Libertalia, en fait, je la connaissais peu, hein, j'avoue, non, c'est un peu la honte, mais je la connaissais peu, mais en tout cas, alors, je pense que déjà on pourrait la resituer par rapport au siècle. Donc on est au début du XVIIIe siècle. Le champ de l'utopie est déjà bien connu, hein, depuis Thomas More. En fait, dans une utopie, il y a beaucoup d'éléments, hein, qui viennent constituer une utopie. Moi, je m'intéresse en particulier au système politique. Mais effectivement, dans Libertalia, le système politique n'est pas nécessairement l'élément le plus important. Moi, il me semble que spontanément, ce qu'on pourrait dire de Libertalia, déjà, donc cette utopie pirate, donc décrite par Defoe, c'est déjà qu'elle fonctionne sur la mécanique du partage.
Oui.
Du partage et... d'une part du partage et d'autre part du tirage au sort, on va en reparler, hein, j'imagine. Je dirais que d'une certaine manière ça en fait une utopie un peu spécifique pour l'époque. En tout cas, elle est un peu à cheval entre deux siècles. Je la verrais bien à cheval entre les utopies du 17e et puis les utopies à venir, encore celles du 18e et celles qui seront plus technologiques, on va dire. Donc quelque part, j'ai envie de dire qu'elle a son identité propre. Et je crois qu'il va falloir creuser ensemble pour trouver cette identité du côté justement de ses origines. Et un des éléments qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est évidemment liée à l'histoire de la littérature, puisque c'est Defoe qui la développe. Et donc voilà, pour l'instant, moi ce que je vous propose, c'est de voir ces pistes d'éléments-là. Et on reviendra peut-être après sur son aspect le plus politique. Hein.
Alors tout d'abord, Libertalia aurait été fondée au début du XVIIIe siècle par un capitaine français qui s'appelle Olivier Misson, qui a été aidé dans son périple par le capitaine Thieu, qui est effectivement un capitaine pirate qui est corsaire, qui a effectivement existé. On a quelques traces historiques. Il a été aussi aidé donc par un acolyte qui est un prêtre défroqué. Libertaire. L'une des caractéristiques de cette utopie pirate, c'est que Olivier Misson, lorsqu'il a fondé cette colonie du côté de Madagascar, a édicté des règles assez drastiques et assez innovantes pour l'époque. Par exemple, ne serait-ce que... comment dirais-je ? L'une des spécificités, par exemple, c'est la maison de Dieu, qui est un lieu de culte unique pour toutes les religions. Est-ce que c'est quelque chose qui est novateur pour l'époque ?
Alors, en fonction de l'histoire de l'utopie, alors je ne vais pas parler en spécialiste, hein, juste bon, mais sur l'ouverture, voilà, sur le pluralisme religieux, c'est quelque chose d'assez intéressant, effectivement, parce que si on est à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la dimension, donc au début, hein, du XVIIIe siècle, hein, d'après la date, la dimension religieuse n'est pas toujours aussi ouverte dans les utopies de l'époque que ce qu'on voit dans Libertalia. Hein, y a souvent une dimension religieuse des utopies. On peut resituer notamment avec Francis Bacon, hein, la Nouvelle Atlantide, mais cette dimension religieuse de l'ouverture et du pluralisme est moins marquée. Hein. On place, effectivement, il y a une part de religion. En fait, souvent, dans les utopies de la fin du XVIIe et début du XVIIIe, on se positionne par rapport à la révélation chrétienne. Est-ce qu'on est dans une utopie qui connaît le christianisme, qui connaît la révélation chrétienne, ou est-ce qu'on est dans une utopie plus proche de l'état de nature, entre guillemets? Et dans Libertalia, le choix du pluralisme religieux est peut-être déjà un élément d'originalité.
L'Europe, en plus, est déchirée à cette époque-là par les guerres de religion. Stéphane Beauverger, dans votre ouvrage « Le Déchronologue », le héros François Villon, et notamment au début de l'ouvrage, Henri Villon, pardon.
François, c'est un autre.
C'est son frère. très important. Le capitaine, donc votre héros, est mandaté par le roi pour créer un empire huguenot dans les Caraïbes.
Oui, effectivement, ce qui est important dans Libertalia et qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il s'agit... alors, peut-être qu'on n'a pas précisé quelque chose d'important, c'est que Libertalia est présenté dans le deuxième volume de l'histoire des pirates les plus célèbres. Donc, c'est présenté comme un texte et une compilation d'histoires vraies. C'est-à-dire que ce n'est pas présenté comme une utopie, un projet social et politique qu'on appelle, mais comme quelque chose qui aurait existé. Et le doute a persisté jusqu'à ce qu'on découvre que c'était Daniel Defoe qui l'avait écrite, et qu'il y avait d'abord une volonté d'utopie sociale et politique derrière. Mais c'était présenté dans le deuxième volume de textes qui cherchaient et qui proposaient des véracités historiques. Ceci posé, effectivement, dans le déchronologue, je m'intéresse à une théorie qui a été développée principalement par Michel Lebris, qui voit une grande partie de la geste pirate caraïbe sous l'angle de la guerre de religion. Et moi, je me suis intéressé à 1640, c'est-à-dire l'année de la prise de l'île de la Tortue par les Français. Et ce sont des huguenots qui sont mandatés par le chevalier Poincy, qui est basé à Saint-Christophe et qui gère toute la conquête des îles Caraïbes pour la France. Et ils sont mandatés sur l'île de la Tortue, normalement pour prendre l'île au nom de la France, mais s'agissant d'équipage protestant, huguenot, ils vont avoir cette tentation d'instaurer une république huguenote qui va assez vite tourner à la dictature, contrairement à Libertalia, qui va assez vite tourner à la dictature, qui va interdire les cultes catholiques. Donc, on est sûr que quand on a tenté l'expérience sur une vraie île, ça a très très mal tourné. Alors que dans Libertalia, ce qui reste quand même, c'est que c'est une... Ils se sont appuyés sur la réalité d'un désir de liberté totale de la part d'une sous-classe prolétarienne de l'époque qui étaient les marins, les membres de la Navy, pour essayer d'amener un paradis sur Terre. Et c'est cette même logique qui anime une partie des huguenots qui partent de France, puisqu'ils en sont chassés, pour partir dans les Caraïbes et fonder des mondes, en tout cas des sociétés plus pacifiques et avec une plus grande liberté de culte. Malheureusement, dans le cadre du premier gouverneur de la Tortue, donc Levasseur, ça a tourné à l'éradication de ceux qui n'étaient pas de sa foi.
On sait par les sources historiques que Dufaux, c'est... on ne sait pas exactement s'il est parti naviguer ou pas. C'est l'une des incertitudes historiques. Par contre, on sait qu'il s'est très fortement intéressé aux petites gens. Il a notamment beaucoup erré sur les ports en Angleterre pour discuter, pour parler avec les marins, ce genre de choses. Est-ce que Libertalia n'est qu'une sorte de mythe, d'une légende urbaine ?
Ça, c'est pas exactement un mythe ou c'est pas exactement une légende urbaine. C'est la compilation sous forme d'une utopie littéraire, d'un désir profond ancré d'une catégorie d'humains de l'époque qui subissent tant de brimades et tant de difficultés à bord des navires qu'il y a... Bon, après, on, On peut calquer dessus une lecture marxiste ou politique moderne. On peut dire que Libertalia, l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs d'un outil de production, à savoir un navire, de ne plus en être que les ouvriers, mais d'en être les propriétaires. Et donc, leur manière de dégager du profit, c'est de faire de la capture, c'est de faire de la rapine, mais c'est de venir maître de leur outil de développement. Donc, sous cet angle-là, effectivement, c'est la retranscription dans un texte prophétique, d'une certaine manière, romantique, de l'aspiration qui anime toute une catégorie des classes sociales les plus défavorisées d'Europe de l'époque.
Si je peux intervenir sur un deux, je sais pas si. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de flibustiers en fait à la base qui étaient sur les navires marchands ainsi que dans la marine royale et vivaient dans des conditions absolument catastrophiques.
Absolument atroces.
Ils avaient une nourriture qui était souvent avariée, ils subissaient énormément de violences. Et en général, quand des pirates justement attaquaient les navires marchands, la plupart du personnel qui était à bord en fait décidait de s'enrôler dans la piraterie parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient avoir des conditions de travail en fait bien meilleures. Et on ça se demandait si la flibusterie, quelque part, c'est pas un peu la naissance du droit du travail aussi.
Je rajouterais même, pour aller encore plus loin que Caudray, on a des cas qui ont été recensés de navires pirates capturant des navires marchands et qui interrogent l'équipage pour savoir si le capitaine les a bien traités. Et qui prennent des punitions selon la manière dont l'équipage a été traité à bord. Ce qui montre bien qu'il y a un désir de revendication, de vengeance. Et on a des témoignages de navires capturés dont le capitaine était somme toute humain et qui était relâché sans trop de dégâts corporels, juste ce qu'il fallait, parce qu'il avait été, il avait bien traité ses hommes.
Voilà. Est-ce que les confrontations et le fait de basculer dans la piraterie, hein, ça se faisait aussi en cas de confrontation avec des navires militaires par rapport aux navires marchands?
Alors, il y a plusieurs cas qui ont été recensés de mutineries militaires.
D'accord.
Mais c'est aussi en réponse à la tentation de la mutinerie que les conditions de vie étaient c'était de l'esclavage légal. Voilà. La première peine, c'était le fouet et ça tombait très très vite.
Je pose la question parce que, alors sauf erreur de ma part, il faudrait vérifier, mais il me semble que les ordonnances donc de la monarchie, notamment française, à la fin du XVIIe siècle, donc vraiment à l'extrême fin du XVIIe siècle, sur la marine, les grandes ordonnances de codification, prévoyaient en cas d'urgence une conscription par fermeture du port. C'est-à-dire qu'en fait, on recrutait l'équipage en cloisonnant, en fermant le port et en faisant une conscription obligatoire.
En Angleterre, on appelait ça le press gang. Ouais.
Voilà,
le press gang, en fait, c'était l'enrôlement obligatoire.
Voilà. Et donc, du coup, ça peut aussi expliquer en cas de confrontation, les mutineries de façon plus.
Et puis, il suffit d'écouter ou de lire les textes de marins de l'époque. Où en gros ils disent maman ne fais jamais de ton fils un marin, enfin c'est l'enfer sur terre.
On va parler un peu du système de redistribution d'ailleurs chez les pirates qui était extrêmement intéressante. Je sais que Stéphane, tu as fait pas mal de recherches là-dessus.
C'est vrai que en plus une des spécificités de cet esprit de navigation libre, c'est que alors, c'est pour ça aussi que l'image un peu romantique du pirate caraïbe ou du pirate de l'océan Indien perdure encore de nos jours, c'est qu'il y a cette notion à l'époque totalement inimaginable et qui est presque encore inimaginable de nos jours, à savoir que un groupe de personnes va désigner son chef. Que ce n'est pas parce qu'il sera le capitaine qu'il aura tous les droits, qu'on va nommer un contre-pouvoir qui est le contre-maître de bord, qui va représenter les intérêts des marins, que le capitaine peut être débarqué s'il ne fait pas l'affaire, s'il ne rapporte pas ses profits, s'il se comporte en dictateur ou en individu trop autoritaire. Et surtout, voilà, le partage des richesses. Désormais, nous aurons tous à peu près la même valeur à bord. Un capitaine a le droit d'avoir deux parts, pas plus, C'est pas 3000 fois le salaire ou un SMIC en un an, quoi. C'est deux parts. D'autres compétences spécifiques, le cuisinier, le chirurgien de bord, le quartier maître peuvent avoir une part et demie. On peut même parfois jouer sur des quarts de part, mais voilà, normalement, la différence maximale entre le premier officier de bord et le marin, c'est seulement x2. Et ça, c'est quelque chose qui était une très très grande innovation et qui est avérée, on en est sûr.
Et il y avait aussi un truc assez important, c'était la mutualisation, c'est-à-dire qu'on gardait une partie du butin, en fait, dans les cales du bateau, en vue de pouvoir soutenir ceux qui perdaient une jambe ou qui
une sorte de sécurité sociale.
Ça s'appelait la chasse-partie. Et en fait, il y avait des tarifs, perte d'un œil, 200 pièces, perte d'une jambe. Donc, quand ils montaient à bord, ils négociaient aussi à quel tarif sera monnayé les éventuelles blessures que j'aurai. Parce que les équipages sont extrêmement mobiles, se constituent et se détruisent et se détricotent extrêmement vite. Et lors des enrôlements, chacun négocie avec le capitaine ou avec le quartier maître selon qu'il vient avec ses propres armes, selon ses compétences et selon ce que le navire va lui amener en termes de mutualisation, effectivement.
Audrey, on a assisté aussi à des femmes capitaines.
Oui, donc il y a eu quelques célèbres femmes capitaines, et notamment Marie Red, donc Marie la Rouge, qui en fait est née dans la banlieue de Londres, donc dans une famille très pauvre, et c'est une enfant illégitime. Donc afin d'obtenir le soutien de la famille du mari, du nouveau mari, en fait sa mère l'habille en fils, en fait, à l'image du fils décédé du mari. Et alors il faut croire que ça a eu un très grand impact sur la psychologie de Marie la Rouge, puisqu'elle va vraiment se comporter comme un homme à l'époque. Elle va être marin, mais elle va aussi s'enrôler dans la cavalerie des Flandres, hein. Elle va vraiment manier du pistolet. Elle va tomber amoureuse. Alors elle va d'abord se faire capturer en fait par des pirates, elle va être faite prisonnière. Et elle va tomber amoureuse donc d'un pirate qui va lui-même être provoqué en duel avec un autre pirate qui sera jaloux. Et pour sauver son amant, elle va provoquer elle-même en duel le même pirate en fixant l'heure du duel 2 heures avant celui de son mari. Comme ça, elle se débarrasse de l'amant avant son mari, en fait. Donc elle a... Et donc il y a Marie la Rouge, et il y a aussi une autre célèbre capitaine qui s'appelle Anne Bonny, hein, c'est ça, voilà. Et qui en fait suit son père, qui est planteur donc en Floride, voilà. Et elle aussi va avoir une vie assez tumultueuse et devenir aussi un célèbre capitaine pirate. Même parfois, Anne Bonny et Marie la Rouge seront plus courageuses en fait que les pirates, puisque lors de certaines batailles, on a des anecdotes qui disent que les pirates ne combattront pas et elles sont les seules, enfin les dernières à rester sur le pont et à combattre. Donc ce sont vraiment des guerrières. Elles vont être condamnées à mort et pour échapper à la condamnation à mort, elles vont invoquer le fait qu'elles sont enceintes. Voilà.
Ça, en plus, donc, à une époque où les femmes n'ont pas de place à bord, où elles sont interdites d'accès normalement au navire, même si on a quelques cas qui montrent que peut-être qu'on a un petit peu mythifié cette idée que les femmes étaient interdites à bord. En tout cas, où le statut de la femme dans la société, d'une manière générale, n'était pas très flamboyant. Et ça aussi, on le retrouve dans cette utopie de Libertalia. On retrouve cette égalité de sexe, égalité de race, de couleur de peau, qui participe à nouveau. Là, on parlait du cas des femmes pirates, mais on pourrait aussi parler des anciens esclaves qui ont pris le contrôle de navires ou qui ont été enrôlés en tant qu'hommes libres à bord des bateaux. Et c'est pour ça que ce fameux mythe de Libertalia, on le voit à travers tous les exemples qu'on donne des choses qui sont passées à l'époque, et la retranscription rêvée. Des grandes aspirations de l'époque.
Juste pour continuer sur ce côté un petit peu paradoxal et avant-gardiste de Libertalia, c'est qu'elle n'est pas simplement novatrice, cette utopie sur la place de la femme, sur le statut de la femme. Alors, on a repris, on est parti sur les clivages aussi entre l'Europe protestante et l'Europe catholique, et là aussi ça explique beaucoup. Le rapport de pouvoir n'est pas le même pour les protestants et les catholiques. Mais surtout, ce qui me frappe en avançant dans la table ronde, c'est précisément que c'est pas une utopie fondée sur des institutions politiques.
Oui.
Et que du coup, elle est vraiment à part, parce que cette notion de liberté, justement, et de partage fondé sur la liberté, au lieu d'être fondé ce partage de la propriété privée, ou cette, ce qui aurait pu être une négation de la propriété privée, comme la plupart des utopies communistes de l'époque, ne passe pas par la mise en place d'institutions, mais passe par le volontariat, enfin l'accord spontané des pirates entre eux. Et ça, pour le compte, ça fait de libertariat quelque chose d'extrêmement à part, et qui pourrait annoncer quelques utopies beaucoup plus tardives, en fait.
Par exemple, je vais citer le mode de fonctionnement de cette société, de cette micro-société. Tout d'abord, j'ai parlé tout à l'heure des maisons de Dieu, qui était un lieu de culte unique pour toutes les religions. Autre chose, quelque chose qui était assez intéressant et assez novateur, c'est que tous les habitants étaient mélangés. C'est-à-dire que lorsqu'on construisait une hutte ou une maison, les gens étaient tirés au sort, et ça, peu importe leur origine. Il y avait une vraie mixité. Autre chose, les tâches à accomplir étaient tirées au sort là aussi, dans un souci d'égalité. Qu'on soit capitaine, prêtre, esclave libéré et autres, c'était la même chose. Et aussi, ils allaient jusqu'à acheter des esclaves auprès de peuples qui vivaient aux alentours, simplement pour les libérer et les traiter en égaux. Quelque chose donc d'extrêmement rare aussi pour l'époque. On assiste à des choses de ce genre déjà pour l'époque ?
Au niveau de l'utopie, non, hein, c'est vraiment une utopie à part. Hein, mais je pense que c'est. Alors la clé vraiment, ça vient de la. Du coup, moi, c'est très intéressant pour moi aussi, tout ça. Parce que du coup, je te disais en aparté que j'allais me servir de libertariat dans mes cours.
Merci.
Mais c'est vrai, parce que maintenant, elle n'y est pas, quoi. Dans mon cours d'histoire des idées politiques, je n'évoque pas libertariat comme un modèle d'utopie du début du 18e. Mais c'est vrai que c'est une utopie qui est forgée non pas sur des institutions, mais sur vraiment la notion de liberté individuelle. Et la notion de liberté de choix et de liberté de partage qui vraiment la rend différente. Parce qu'en gros, à l'époque, tel que je vois les choses, moi, en termes d'histoire des idées politiques, hein, de la place de l'utopie, le passage du 17e au 18e siècle, c'est le moment où l'utopie n'est pas simplement fondée sur les institutions politiques, mais aussi sur la science. La science, d'abord comme moyen de connaissance, et ensuite comme application technique. Le basculement se faisant avec Francis Bacon, hein, littéralement la Nouvelle Atlantide. Mais cette notion de liberté n'est pas présente à ce point dans les autres utopies, et surtout cette notion de volontarisme individuel, et particulièrement, et sur la notion de partage, moi alors je ne veux pas faire orienter le débat sur. Mais ça me ferait penser beaucoup plus à du socialisme presque proudhonien, anarchique. C'est-à-dire, on mutualise, ce que tu disais tout à l'heure, on mutualise par une forme de coopérative, finalement, en gardant la liberté de chacun contribuer à la décision.
C'est exactement ça.
Alors, si c'est ça, on a quand même une sorte de socialisme proudhonien au début du XVIIIe siècle, c'est quand même surprenant.
C'est très surprenant. Oui.
Voilà, on n'est pas loin.
Do you think it's possible, and I must confess at the outset that I am completely, completely unfamiliar with Libertalia. It's a measure of your generosity that you have me on this panel, and a measure of how busy they've kept me at Utopiales that I haven't had time to run away to a computer and learn about Libertalia. But is it possible that particular aspect of a greater voluntary nature to things is a measure of the less totalitizing tendency of a utopia created on this scale, as opposed to so many of the utopias we're used to reading, which have a sort of almost messianic need to encompass the whole of mankind or the whole of a social sphere, whereas this is more content to help a small and limited group of people defined in a limited way. Yeah.
Well, I understand in I answer in French. Voilà. Oui, pour le public. En fait, il me demandait si. Enfin, tu peux traduire, mais en gros, il me demandait si finalement tu me dis si je me trompe, hein, Lionel. Si Libertalia n'était pas originale en ce sens qu'elle se concentrait sur un petit groupe de personnes et pas sur une volonté totalisante ou englobante de l'utopie. Je dirais pas forcément ça, parce que finalement l'utopie encore à l'époque est toujours une utopie de type insulaire. Et on est toujours sur un domaine, ce qu'on appelle les utopies fermées, soit la taille d'une cité, soit de la taille d'une île en fait. Et finalement pour l'époque, l'utopie n'a pas encore de vocation englobante ou universaliste. on peut entrer dans l'utopie, on peut y être accepté, comme dans l'utopie de Francis Bacon, par exemple, mais elle ne, le régime politique ou le régime de partage des biens ou de positionnement des personnes, d'égalité, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais derrière libertalien, il y a aussi la notion d'égalité, elle est toujours pour ce petit groupe de personnes-là. Donc, je dirais qu'elle ne, de ce point de vue-là, elle n'est pas différente tellement. Voilà. Alors, elle est peut-être plus... Non, ce qui est peut-être vraiment différent, ce qui est peut-être vraiment différent, c'est son côté évolutif. C'est son côté... on n'applique pas un système institutionnel qui a été mis en place et qui ne bouge plus parce qu'on le juge parfait. On réinvente au jour le jour, alors tu me diras si je me trompe, mais on réinvente Libertalia au jour le jour.
An improvisational nature, perhaps?
Yeah, in one sense. Yeah.
Et puis, il y a une remarque, enfin, la remarque de Robert était très importante, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de masse critique au-delà de laquelle l'utopie n'est plus viable. Et c'est beaucoup plus facile d'imaginer un système qui fonctionne sur un navire, sur une escadre, sur une île, qu'un système global. Puisque le facteur humain étant ce qu'il est, c'est-à-dire de mon point de vue vrillé à la base, c'est plus facile d'imaginer qu'on sera tous vachement volontaires et tous vachement d'accord pour aller dans le même sens, tant qu'on est 50, 75, 100, dès qu'il va falloir gérer un pays sur des principes de volontariat, ça a commencé à poser des petits soucis. Donc c'est aussi pour ça que cette utopie de la piraterie libre sur l'île de Madagascar, enfin à côté de Madagascar, demeure si poignante et si tangible, c'est parce que nous, après tout, enfin, on aurait tous envie que ça soit possible, quoi.
Je pense qu'il y a un clin d'œil de l'auteur de Faux à toutes les utopies insulaires qui ont précédé, parce que sur les îles, enfin sur Madagascar notamment par exemple, on a beaucoup, enfin, sauf erreur de ma part, c'est Campanella qui situe sa Cité du Soleil. Bon, alors qui a été écrite avant, mais qui est publiée véritablement vers 1620, donc on est au XVIIe siècle. Donc il a dû forcément la voir, bien entendu. Elle a presque un siècle par rapport à 1728. Hein. Mais sur justement Tabropane, qui est le nom latin de Madagascar. Donc finalement, il doit y avoir des clins d'œil aussi de la part de Defoe. Et pour revenir sur le tout début de la table ronde, on s'est demandé si les gens... je crois que vous avez posé la question, je crois que c'est Gwen, tu as demandé si est-ce qu'elle avait existé ou pas, cette utopie.
Oui, tout à fait.
Je pense que les lecteurs de Defoe jouent le jeu aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on joue le jeu de l'île inconnue et on accepte la suspension d'incrédulité qui consiste à croire que...
Surtout qu'effectivement, la notion de Libertalia a été reprise ensuite par d'autres auteurs qui lui ont donné corps en ajoutant crédit et foi à cette légende.
C'est effectivement, Defoe, donc, lorsqu'il a écrit cette... son livre, son histoire des pirates. Alors historiquement, effectivement, on n'a aucune trace de Libertalia. On ne sait pas si effectivement ça a bien existé ou pas. Par contre, historiquement, on sait qu'il y a eu des foyers de peuplement de pirates alors, à Madagascar, mais aussi en Amérique du Sud.
Oui, et puis il y a eu aussi le cas des Eleutherans Adventurers, qui était une secte radicale anglaise qui s'est installée au cœur des Caraïbes, au cœur des Bahamas, pour créer une utopie égalitaire. Je crois qu'ils ont survécu 2 saisons et demie. Donc dès qu'on sort de la littérature et qu'il y a des hurricanes, des moustiques, des indiens et des fièvres, ça marche tout de suite beaucoup moins bien.
Il y en a eu une aussi beaucoup moins connue, une implantation française aux États-Unis.
Tout au long des premières colonisations, mais donc là on quitte Madagascar et on retourne voir un siècle et demi plus tôt, voire 2 siècles plus tôt du côté des Caraïbes. Il y a eu énormément d'implantations de micro-communautés qui essayaient de s'installer. Il y a un film exceptionnel qui s'appelle Le Nouveau Monde de Terrence Malick, voilà, qui raconte ça, où on voit les types qui s'installent, qui tentent de... Et puis, voilà, la logique du pouvoir humain étant ce qu'elle est, le premier chef ne fait pas l'affaire, alors on le tue, et puis lui non plus ne fait pas l'affaire, alors on tue le deuxième, et le troisième, et les récoltes sont mauvaises, et on commence à avoir faim, on commence à être malade, on voit des gosses qui se mettent à errer dans les rues, dans les sentiers boueux, pour essayer de quémander de la nourriture. Et la plupart de ces microstructures-là n'ont pas réussi à survivre. Les premières implantations françaises dans les Caraïbes se sont pratiquement toutes ramassées. En fait.
Libertalia n'a pas survécu d'ailleurs, hein, je crois.
Absolument.
C'est terminé. Et je crois que le capitaine Chu, finalement, est parti aux États-Unis pour peut-être qu'il s'est fondé une autre enclave.
Dufault était très fort parce qu'effectivement, il a utilisé la biographie de Chu. Sur les premières années de piraterie de ce capitaine, pour essayer de l'inclure dans cette utopie.
I would like to mention as well that in the Everglades of Florida, there was also something of a matrix in the late slavery times of some French, but far more escaped slaves from mutinies and from a certain portion of the press gang crews of the slave ships that make settlements sometimes in lethal conflict with the surviving Seminole Indians in that area, sometimes in cooperation with those Indians. We don't have much historical information about those. But as you talk about Libertalia, I'm strongly reminded of a novel that's among my favorites of all time by the English writer Barry Unsworth, who won the Booker for this novel called Sacred Hunger, which is precisely about a construction of a slave ship, the financing of it, the passage to Africa, and then a slave revolt in mid-Atlantic. And it's historical fiction until the last third of the book, where it takes a really riveting turn towards the utopian, because it tells the story of an extremely idealistic community formed in the Everglades by the survivors of this, who attempt to hide the ship in an upper tributary deep in the Everglades, and they're destroyed partially by rediscovery by Europeans who are trying to recoup some of their money, but more so by this very question of scale again, as they become a little bit more financially sound, and the mere challenge to survive and not starve or die of malaria is behind them. Then they find in a most tragic way that the social stratification recreates itself. At first, they have nothing, and the creation of égalité is possible, is less contentious. As they become something more than a day-to-day group of survivalists, the stratification recreates itself, and only the oldest among them, who have a clear memory of life before this shipwreck, can see the really heartbreaking recreation of just what left them, put them into the position of such vulnerability to begin with. So I'm very anxious to see how many parallels might exist with the Libertalia. God, there I go again.
Donc oui, ce que vous dites intéressant, ça me rappelle aussi, je voudrais mentionner, le genre de même phénomène s'est passé dans les Everglades, puisque vers la fin de la période à l'époque de l'esclavage, il y avait effectivement quelques communautés françaises, mais surtout d'esclaves qui s'étaient libérés, ou d'anciens navires négriers qui se sont retrouvés donc dans les Everglades et qui ont fait quelques communautés, qui sont parfois entrées dans des conflits létaux avec les populations locales, les Indiens locaux, parfois en coopération. On n'a pas trop de compte-rendu historique et d'informations là-dessus. Ça me rappelle un de mes romans favoris de Barry Unsworth qui s'appelle Sacred Hunger, qui a gagné le prix Booker, qui en fait parle tout du destin en fait d'un navire d'esclaves, où l'on voit la construction puis le financement de ce navire, le passage en Afrique, et en fait ce navire, il y a une mutinerie des esclaves au milieu de l'Atlantique, les esclaves prennent le contrôle du navire, et en fait c'est un roman historique jusqu'on va dire le dernier tiers du livre, où ça prend un virage très fortement marqué vers l'utopie, où on a donc ces esclaves libérés qui fondent une communauté idéaliste dans les Everglades, qui s'efforcent de cacher le navire le plus possible en haut à l'intérieur des terres à travers un fleuve, en fait ce qui est véritablement qui brise le cœur, c'est que quand à partir du moment où ce groupe n'est plus un groupe de survivants qui essaie de survivre à la maladie, à la faim, etc., et qu'ils arrivent à s'installer et qu'ils ne sont plus des survivants qui doivent se demander d'un jour ou l'autre comment ils vont s'en sortir, ils s'abscissent avec consternation que la stratification sociale se recrée d'elle-même, et ce qui est véritablement tragique. Et seuls les plus anciens de cette communauté voient comment cette stratification justement s'est recréée d'elle-même. Et donc je suis curieux de voir combien de parallèles on peut faire d'ailleurs avec Libertalia dans ce domaine-là, sur ce thème-là.
Petite parenthèse quand même littéraire, Robert V.S. Reddick, vous avez vous-même un nom de pirate quasiment. Qu'est-ce qui vous a déterminé à écrire un roman maritime sur cette thématique-là, une sorte de fantasy aussi pirate?
I don't know, but I have a few answers. Do you want to do it?
Je ne sais pas, mais j'ai quelques réponses.
I was raised in the state of Iowa, which is as far as you can get from the sea in North America.
J'ai été élevé dans l'état d'Iowa et on peut difficilement faire plus lointain de la mer que ça.
And perhaps because of that, I was fascinated from a very early age with the sea. Maybe it's simply its unknown nature. Captured my imagination.
Et c'est peut-être justement pour cette raison que ça m'a fasciné depuis mon plus jeune âge. L'inconnu qu'elle représente a vraiment captivé et capturé mon imagination.
But in my 20s, I was very fortunate to be able to work in Argentina.
Mais à l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance énorme de pouvoir travailler en Argentine.
And spent a fair amount of time on the Atlantic coast in a place called the Peninsula Valdez, which is a tremendously dramatic place.
J'ai passé un certain temps sur la péninsule Valdez, sur la côte atlantique, et c'est un endroit absolument fascinant, magnifique, très 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 sauvage.
In a geographic sense. And I was walking along the cliffs, and there was a deep fog, and I was looking out into this cold fog, and suddenly, just for some reason, imagined an immense wooden sailing ship careening quickly towards me and towards the rocks and towards its destruction.
Donc je me promenais sur le bord de la falaise, il y avait énormément de brouillard et de brume sur la mer, et je ne sais pas pour quelle raison, je me suis mis à imaginer un immense navire à voile en bois fonçant vers moi, et donc fonçant vers la falaise et vers sa destruction.
I took that image and filed it away for many years, which is all to say it was truly an accident that I got interested. I thought I was writing one book. The criminally stupid war in Iraq began at the same time, and so I found myself, instead of writing a short book about sailing, I wanted to write a huge book about war, deceit, deception, and sailing.
Et en fait, cette image, je l'ai gardée très longtemps, je l'ai mise dans un coin de ma tête. Et puis, au fur et à mesure, je pensais écrire un livre assez court sur la mer. Et finalement, il y a cette histoire de guerre qui est arrivée. Donc, c'est devenu un livre très différent, beaucoup plus long, avec cette histoire de guerre, de trahison, de tromperie, etc.
Ça va ?
Merci. C'est assez rigolo parce que effectivement la même année en France on a vu l'arrivée de votre ouvrage qui est un merveilleux livre de fantasy maritime, et on a eu la chance aussi d'avoir sur un autre registre, là celui de la science-fiction, l'utilisation de la piraterie sur le Décronologue.
Oui, effectivement, moi je me suis pour aller dans le même type de réponse que Robert. Moi, j'ai voulu raconter une histoire de pirate parce que moi, au contraire, j'ai grandi les pieds dans l'eau. Mon arrière-grand-père était Terre-Neuve, mon grand-père était marin au long cours, un de mes oncles était gardien de phare, donc au bout d'un moment, ça commence à peser très lourd sur le patrimoine. Donc je voulais absolument raconter une histoire de pirate, et puisque le champ d'exploration littéraire que j'ai choisi, c'est la science-fiction, il fallait que j'essaie de trouver une manière d'aborder ces deux univers. Donc je me suis documenté autant que possible sur la réalité de la piraterie avant de raconter une histoire de décrochage temporel qui frappe de plein fouet les tentatives d'implantation coloniale au milieu du XVIIe, enfin première moitié du XVIIe siècle dans les Caraïbes. Et c'est c'est pour rapprocher ce travail de documentation par rapport à Libertalia. On réalise quand même assez vite que la réalité de la vie pirate, enfin à l'époque ce ne sont pas des pirates, je vais pas rentrer dans les détails, mais il faudrait faire différence entre la flibuste, les corsaires, les pirates. Dans les Caraïbes, à l'époque, ce sont des flibustiers, c'est-à-dire des individus qui sont qui ne travaillent pas pour un roi, ils n'ont pas de lettre de marque, ce ne sont pas des corsaires, et ce ne sont pas des pirates non plus, dans la mesure où ils ne sont pas, comme on dit, sans foi ni loi. Ils se considèrent toujours appartenant à une nation, et ce sont des entrepreneurs privés en réalité. Les flibustiers, donc, ça, c'est une traduction du néerlandais, ça veut dire libre butineur ou libre pilleur. Ce sont des libres entrepreneurs. Ils capturent ce qu'ils trouvent et ils partagent l'argent ou les biens entre eux. Certains vivent la moitié du temps à terre, on les appelle alors les boucaniers. De temps en temps, ils prennent un navire et c'est une nébuleuse de compétences qui se mélangent. Mais on voit quand même que quelle que soit la manière dont ils vivent leur activité maritime à l'époque dans cette région, on est assez loin des utopies de vie partagée en commun. Dans la réalité, la plupart des équipages qui ont été capturés ont été transformés en esclaves. Les esclaves trouvés à bord n'ont pas été libérés, mais ont été considérés comme de la marchandise de très bonne valeur qui méritait d'être revendue. Qu'est-ce qu'il y aura encore comme exemple du même genre? Par contre, c'est vrai que oui, il faut préserver la notion qu'ils contrôlaient leur outil de production. Ils élisaient leur capitaine et ils pouvaient le virer. Donc ça, c'est vrai, c'est avéré. C'était un changement radical par rapport à la manière dont leur carrière et leur vie étaient imaginables à l'époque. Mais la réalité de un équipage flibustier ne survivra guère plus d'une saison ou deux. Il n'y a pratiquement pas de grand capitaine pirate qui a bien fini sa vie. Il y a Henry Morgan, il a fini gouverneur de la Jamaïque. Je crois que c'est à peu près le seul. Tous les autres ont fini pendus ou malades ou tués. Et pour revenir tout à l'heure au rapport, ce que disait Robert sur le rapport entre les implantations, les installations des colons et les tribus indigènes, on a très 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 peu de traces. D'après quelques informations qui ont survécu, il semblerait que à chaque fois qu'ils ont essayé de travailler ou du moins de collaborer avec les Indiens, ça s'est quand même nettement mieux passé. À chaque fois qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir s'en sortir en tuant, en massacrant les Indiens Caraïbes, ont disparu en pratiquement 100 ans. À chaque fois qu'ils ont estimé qu'ils allaient prendre la place de ceux qui étaient déjà là, ils n'avaient pas accès à un registre de compétences nécessaires pour survivre dans cette région.
D'ailleurs, l'utopie Libertalia aurait disparu justement, aurait été détruite par des Indiens, par des locales.
Ça.
En fait, c'est. Je crois que.
L'autre.
En fait, ce sont les Malgaches en fait, qui ont fait disparaître Libertalia, tout simplement. Alors qu'ils étaient plutôt amis au départ, hein, puisque quand Caracoli et Misson donc, arrivent, donc ils arrivent en fait à Juana, enfin, ils s'allient avec les Juaniens, et avec notamment la reine, qui leur fournit des hommes pour justement s'implanter, construire le débarcadère, etc. Mais ça va mal se terminer, ce sont les Malgaches qui vont finalement se retourner contre eux.
Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que justement, selon Dufault, bien sûr, les Malgaches auraient détruit Libertalia parce que la reine ne voulait pas que les idées de ces étrangers deviennent les leurs, deviennent majoritaires. Je trouve ça assez rigolo.
Ouais.
Pour parler quand même. Il nous reste déjà encore quelques minutes. J'aimerais faire un bond dans le temps. Alors effectivement, l'une des thèses assez intéressantes qui a été développée ces dernières années, surtout par des historiens américains, c'est que la piraterie, donc la flibusterie, viendrait en contestation contre le capitalisme naissant avec le commerce triangulaire.
Est-ce qu'on retrouve-t-on les mêmes aspirations chez les pirates informatiques?
Alors, bon voilà. Temporel.
Bon temporel.
Je sais pas. Alors là, vraiment, là, c'est une colle. Je connais très très peu les. Je ne pirate rien. Hein. Je vive Adopi. je ne sais. Là. Alors, pour l'anecdote, il y a au moins un point commun, c'est comment il s'appelle ce grand site que je ne fréquente absolument pas de piratage qui s'appelle Pirate Bay, qui est basé en Suède, il me semble, qui a gagné son procès, qui a donc rouvert récemment. Je crois savoir qu'ils ont comme symbole le drapeau d'Henry Morgan, c'est-à-dire la tête de mort avec les deux sabres croisés en dessous. Donc peut-être que... Enfin bon, après... C'est une petite image romantique et un clin d'œil, mais... Ce site, en l'occurrence, c'est de la mise en partage illégale de documents et de choses numériques soumises à droit d'auteur. Si on parle du piratage tel qu'il est considéré actuellement, tel qu'il est pratiqué par exemple dans les pays de l'Est, là on est dans de la malveillance, enfin de la malveillance, ce sont des opérations destinées à faire des denial of service, je ne sais pas comment ça le prononce en anglais, donc des attaques massives à partir de machines zombies. Alors machine zombie, qu'est-ce qu'une machine zombie? Environ 10% du parc informatique mondial, peut-être vos machines, hein, sont une machine zombie, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un pirate qui a réussi à y installer un cheval de Troie et qui va en fait se servir de votre puissance ou de votre adresse. Lorsqu'il va lancer une attaque, il va tout à coup demander à tous les ordinateurs dont il possède l'accès de lancer une attaque massive sur un site, sur Google ou n'importe quel site. Et c'est la totalité des machines qui fait que le serveur attaqué ne peut pas résister à une telle accélération de demande. Donc ça, ce sont des attaques typiquement malveillante de sabotage, donc on est assez loin. Enfin, la manière dont ils gagnent leur vie, les pirates ou les cybercriminels qui pratiquent ce genre de choses, c'est qu'ils sont payés pour produire ce genre d'effet. Oui. Voilà.
Alors que, we shouldn't omit to at least mention the survival of real pirates from everywhere, from Somalia to Indonesia to Malaysia, which seemed to me very much a byproduct of capitalism.
N'oublions pas non plus aussi tous les véritables pirates qui subsistent aujourd'hui en Somalie, en Malaisie, qui sont de véritables sous-produits du capitalisme quelque part.
Absolument. Oui, absolument. Il y a un parallèle qui est assez intéressant justement avec les actes de piraterie qui se passent actuellement de nos jours.
Il y a eu de la piraterie de tout temps, sur toutes les mers, en Chine, en Méditerranée. L'image du pirate qui était très très remise au goût du jour grâce à Pirates des Caraïbes, donc une façon un petit peu édulcorée Disney ou le cinéma américain d'une manière générale, Hollywood l'a également remis au goût du jour. Celui-là est la figure la plus connue, la plus célèbre, la plus agréable. On aurait presque envie d'aller boire du tafia avec eux à bord, la piraterie est un mode de rémunération et un mode de vie pour encore beaucoup de communautés, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre civile parfois actuellement sur la planète. Donc c'est vrai que Libertalia ne s'intéresse absolument pas à cette dimension-là.
Pour finir, je vous conseille vraiment la lecture d'un tout petit ouvrage qui coûte 1 euro, 1,50 €, Libertalia, une utopie pirate, édité par l'Esprit Frappeur. Et bien sûr, je recommande la lecture du Déchronologue et bien sûr de votre ouvrage, Monsieur Reddick. Je vous remercie tous. La conspiration du Loup Rouge, bien sûr. Je vous remercie tous et on va céder la place donc à la prochaine table ronde.